Salut à toutes et à tous les curieux de la boule à facettes et bienvenue. Effectivement, nous sommes le 21 septembre et vous avez reconnu peut-être la voix de Quentin qui est aux platines derrière. Salut Quentin.
Bonjour Sophie. Comment on se retrouve?
Mais oui, mais c'est inattendu.
Au détour d'une averse, tel Mary Poppins.
Exactement. Donc vous écoutez bien Fréquence 7 et vous voilà parti dans les méandres de l'onde curieuse. Le magazine de la rédaction de votre radio favorite. Et on est jeudi, comme tu le disais justement, le 21 septembre. Mais le jeudi, c'est consacré maintenant, cette saison, aux idées, aux livres, à la création en général, création qui émerge ou qui féconde l'Ardèche. Et tout d'un coup, votre poste radiophonique bascule. Vous écoutiez Fréquence 7. Vous êtes maintenant sur Fréquence 7 Culture. Aujourd'hui, pour commencer la saison, vous allez entendre l'émission, ou l'entretien plutôt, qu'a donné Mireille Fargier-Caruso à Olivier Horry, à la suite de la publication de son dernier recueil « Vivre ». Mireille Fargier-Caruso est poétesse, elle est née en Ardèche, elle a enseigné la philo, et ça se sent dans sa poésie, qui est sur la brèche des questions essentielles ou existentielles, où l'important pour elle, c'est de trouver une parole juste qui mêle en poésie l'affect et le concept, et dans laquelle le lecteur pourrait trouver sa propre parole. Un esprit de création qui évidemment résonne dans son interlocuteur, l'ami Olivier Horry, et j'imagine aussi en beaucoup d'entre vous et en beaucoup d'entre nous. La poésie, c'est quand même mieux pour vivre. Mais ce beau programme, c'est après l'agenda, et y a-t-il de la poésie dans les infos locales du jour ? Peut-être, la poésie, c'est ce qu'on crée partout, c'est ce qu'on fait des mots, certes, mais aussi des mots MAUX, comment on les transforme pour mieux vivre. Et en cette rentrée grise aujourd'hui, mais je parle pas seulement de la météo, on se sent un peu en friche, en chantier, on se foule un peu la cheville dans un fossé de chaos, alors on se retape, on se reconstruit, on se rattrape, on lance de nouveaux chantiers, on se repoétise quoi. On se repoétise, on se reconstruit, surtout si on parle, si on en débat, si on fait des choses en commun. Alors oui, on peut se défouler la cheville ouvrière, on peut se défouler tout le corps social aussi. En tout cas, c'est le programme que laisse transparaître l'agenda. Avec ce soir le ciné-débat du film de Christian Tran au navire, Solène, une étape pour se reconstruire. Solène, je le rappelle, c'est une association à Aubenas qui propose des solutions d'hébergement et de réinsertion sociale pour les personnes en difficulté. Et c'est à travers des témoignages pris sur le vif que le réalisateur, donc Christian Tran, fait découvrir les parcours souvent compliqués des personnes qui ont cours à ces services d'hébergement, leurs attentes, leurs besoins. Alors certaines ne seront que de passage, d'autres trouveront à travers les professionnels de l'équipe de Solène et le soutien proposé l'énergie nécessaire pour mettre en place un projet d'insertion. Ce film est sans doute nécessaire pour nous permettre d'approcher ces personnes et il sera suivi d'un débat avec le réalisateur, donc Christian Tran, et aussi avec Stéphane Bourg, qui est le directeur de l'asso en question, de l'asso Solène. Donc c'est ce soir à 20h30 au navire, 5 euros, 1 euro pour les personnes qui ont des difficultés financières. Et puisqu'on parle d'énergie, on reste au cinéma Le Navire, puisque demain, vendredi 22, sera projeté le film « L'énergie positive des dieux ». Alors l'énergie, c'est celle donc des dieux, des déesses, des croyants, des pensants, des sachants, de toutes celles et ceux qui militent, qui revendiquent, qui parlent pour être écoutés, qui écoutent pour parler. L'énergie des dieux, ce film qui va à la rencontre de Stanislas, Johan, Aurélien et Kevin, chanteurs du groupe Astéro-Tipi, qui sont issus d'un institut médico-éducatif qui accueille de jeunes autistes. Ils dévoilent sur scène leur univers détonnant, encouragé par Christophe, un éducateur plus passionné par l'art brut que par les techniques éducatives traditionnelles. Et c'est leur aventure collective, comme un cri de liberté, qui est relaté dans ce film. Et cette diffusion, donc demain, 22 septembre au navire, c'est le premier événement du festival MEH, ce festival qui se décrit comme une application, éthique et solidaire de la culture, des expressions artistiques et militantes, inclusives et citoyennes, dans lesquelles créent, testent et réalisent des personnes en situation de handicap, des travailleurs sociaux, des gens du spectacle, bref, des artistes. Donc on aura l'occasion de reparler longuement de ce festival, MEH dans l'onde curieuse. Mais donc notez que demain, on parlera en partenariat avec l'ADAPI 07 et Bethany de ce film, sera projeté ce film L'énergie positive des dieux, suivi d'un débat pour vous donner un bel aperçu de cette atypique alchimie. Autre alchimie du collectif et du rêve, celle qui a donné naissance à la dernière exposition visible dès aujourd'hui et inaugurée demain à 18h, salle de la place Grenette à Aubenas, « J'ai fait un rêve ». Beau titre pour cette expo, organisée par donc, un collectif de photographes sous l'égide de Zoom Photo. L'année dernière, ils avaient sévi déjà avec l'expo « Utopie dystopie ». Et ils sont encore plus audacieux cette année. J'ai fait un rêve. J'ai fait un rêve, c'est 32 photographes qui exposent une photo accompagnée d'un texte sur ce thème, donc j'ai fait un rêve. À découvrir donc, dès ce soir jusqu'à jeudi prochain. C'est court, hein, c'est des expos assez courtes que propose la ville d'Aubenas dans cette salle Grenette, mais ça tourne et ça veut dire qu'il y a beaucoup de créations, il y a beaucoup de choses à montrer. Le vernissage, ce sera vendredi 22 à la salle Grenette à Aubenas pour cette expo J'ai fait un rêve. Autre expo, ça parle collectif aussi sur un autre terrain de jeu qui s'en approche un peu, puisqu'on parle encore d'expo photo, mais photo et dessin cette fois-ci, et qui se tient au château d'Alba la Romaine. Ça s'appelle Terrain de jeu. Et alors, vous allez pouvoir vous régaler des photos et des dessins aussi. Des excellentes artistes Anouk Evrard, Alexa Brunet, Myriam Chastanier, Lisa Abb et Vanessa Chambard. Terrain de jeu, c'est une expo qui est visible du 21 septembre au 1er octobre avec le vernissage. Cette fois-ci, c'est samedi 23 à 18h au château d'Alba la Romaine. Donc... On passe aussi là sur un autre terrain de jeu qui mêle le sport et la santé dans le cadre de la fête de la science qui débute chez nous demain, vendredi 22. Alors officiellement c'est le 8 octobre, mais nous on prend un petit peu d'avance. À la médiathèque de Montpezat seront projetés deux films de Julien Farot sur des athlètes de haut niveau. Et donc ça débute demain avec un film, demain 22 septembre à 18h à la médiathèque. Ce film, c'est Les sorcières de l'Orient. Vous êtes plongé dans le Japon des années 60, et tandis que Tokyo, en pleine reconstruction, toujours elle, la reconstruction, conforte son grand retour sur la scène internationale avec l'organisation des JO, un groupe de jeunes ouvrières de l'usine textile Nishibo, baptisé Les sorcières de l'Orient, connaît un destin hors du commun. Après le travail, elle s'entraîne dans des conditions les plus rudes pour se hisser au sommet du volley-ball mondial. Donc c'est à découvrir demain à la médiathèque de Montpezat. On continue, sport et santé et collectif toujours. Alors pourquoi ne pas marcher pour vaincre la mucoviscidose ? Oh, l'art des transitions. Laisser la tentative. On parle bien sûr donc de la 35e virade de l'espoir qui aura lieu à Vals-les-Bains dimanche 24 septembre de 10h à 18h dans le parc de Vals. La recette de la journée sera reversée à l'association Vaincre la mucoviscidose et le programme débute en fanfare ou en batucada plutôt avec Bamaya. Et puis dès 10h15, c'est la rando familiale avec plein d'animations, des stands pour les enfants, tombola, repas, concerts. Bref, vous avez toute la programmation sur Facebook de la Virade de l'Espoir de Vals-les-Bains, qui donc, je vous le rappelle, aura lieu ce dimanche de 10h à 18h. C'est fou, Quentin, c'est pas toi qui va me contredire. C'est fou ce que la marche, le mouvement donne comme espoir. C'est le principe même de la manif, hein, et de la marche.
Et oui, d'ailleurs, tu nous parles d'un rendez-vous supplémentaire ?
Ben oui, je te parle de l'appel à la marche unitaire du 23 de ce samedi à 10h à l'Agora d'Aubenas. C'est une marche pour la fin du racisme systémique, des violences policières, pour la justice sociale, climatique et féministe et les libertés publiques. C'est comme un écho ravivé, hein, après le meurtre de Naël, tué par un policier à bout portant le 27 juin 2023 à Nanterre. Et cette marche, bah, c'est un appel ici en Sud-Ardèche, un appel qui émane notamment des collectifs le collectif féministe 8 mars, le comité Solidarité Palestine, ELV, FSU 07, la CGT d'Aubenas, la CNT aussi 07, le Social Castagne, LFI, la Libre Pensée, le MRAP, la NPA, les Soulèvements de la Terre, Aubenas et Montagne, Sud aussi. Et ils exigent pas mal de réponses. Vous avez l'appel qui est placardé sur pas mal de murs de fréquences, notamment. Non, je ne sais pas. Mais en tout cas, d'Aubenas. Et donc, appel à la marche, c'est sur l'Agora, samedi à 10h. Soyez nombreux, faire des choses ensemble, on disait. Et on continue. On continue avec un peu de musique. Avec la version de Noir Désir. Alors évidemment, ce n'est pas une provocation. Ça soulève pas mal de débats, avec Quentin aussi derrière la vitre.
Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur.
Le temps des cerises, parce que c'est une petite rengaine qu'on entend dans Vivre, le recueil de Mireille Fargier-Caruso.
Mireille Fargier-Caruso, bonjour. Je suis bien content de vous accueillir ici dans les studios de Fréquence 7 pour parler de votre poésie. C'est le recueil « Vivre » qui va d'abord attirer notre attention puisque vous êtes venu le présenter à la librairie du château et que nous allons essayer d'en dire quelque chose ici à l'antenne. Ce recueil donc de vous, Mireille Fargier-Caruso, c'est « Vivre ». C'est édité par Bruno Doucet, qui travaille beaucoup pour la poésie depuis quelques années, qui travaille beaucoup pour la poésie féminine, puisqu'il a édité les poètes afghanes, les poètes ukrainiennes, les poètes de la Beat Generation. Il a aussi édité Margaret Atwood. Mmh. Ça vous met en très belle compagnie, Margaret Atwood. Alors, comme à mon habitude, un entretien en abécédaire, en forme d'abécédaire. À la lettre A, j'ai choisi abandon, peut-être parce que vous avez déjà publié un recueil intitulé « Comme une promesse abandonnée ». Peut-être aussi parce que, à vous lire, à lire dans « Vivre », on voit ce thème apparaître. Je le vois à un moment donné quand vous décrivez une ville. Plus de piétons qui flânent, de désordre, d'amoureux sur les bancs publics. Plus de bancs publics. La faille s'agrandit. Ça vide les rues, la langue, ça délie, ça exile, ça casse la vie des gens dans leur dos. Ça continue, je laisserai le lecteur prendre connaissance de la suite, mais il y a un autre tableau que vous nous offrez de l'abandon. Ce sont nos vieux, les maisons de retraite. On les a mis en cercle, sans parler, se regardent, ne se connaissent pas, ne s'étaient jamais vus. Certains ne peuvent même plus bouger la tête, obligés de rester face à face, posés là, encerclés dans cette odeur de vieux, en silence. La mort, ça ne se dit pas. Ne peuvent que mâcher lentement les jours, l'un après l'autre, en entendant la mort, dans des fauteuils sans roues. Voilà, ce sentiment d'abandon, il apparaît de temps en temps dans vos livres. Est-ce que c'est une dominante de votre écriture?
Je sais mal placée pour en parler. Disons, l'abandon et la perte, c'est quand même la vie aussi, ça. La vie, c'est forcément choisir, donc perdre, et donc abandonner. Déjà, la naissance, c'est une forme d'abandon. Ouais. C'est vrai, mais bon, nos rêves, on les abandonne beaucoup. Mais il faut bien survivre, ce que j'écris, au cendre des rêves. Donc, oui, l'abandon, c'est quand même une dominante, mais en même temps, c'est comment dominer ça? Comment faire en sorte que l'abandon soit vivable et qu'on puisse continuer et se reproposer des ouvertures?
Oui, il y a des variantes sur l'abandon. J'en vois une dans vos textes, hein, toujours, qui est l'attente. On se sent abandonné, on attend quelque chose. Est-ce que là aussi, vous attendez? Parce que, bon, peut-être que vous avez dû abandonner des rêves politiques à une époque.
Certes. qui n'en a pas abandonné? En tous les cas, moi, j'en ai abandonné. Enfin, abandonné, c'est d'ailleurs un grand mot. Disons que j'ai été déçue et qu'on est obligé de modifier un peu. Pour garder espoir, on modifie. Mais c'est vrai qu'on a eu l'impression d'être abandonné. Je ne suis pas la seule, d'ailleurs. Je pense que beaucoup de gens ont eu l'impression d'être abandonnés et que les promesses n'étaient pas du tout réalisées, quoi. C'est vrai.
Oui, oui. Et vous attendez, du coup, quelque chose en politique, par exemple? On en a un petit peu parlé hors antenne, hein, des attentes qu'on pouvait avoir de nos politiques.
J'attends toujours plus de démocratie et plus de justice. Oui, toujours. Je crois que ça, jusqu'à la mort, j'attendrai plus de justice, parce que ça me paraît scandaleux. Voilà.
Ouais. Il y a un abandon qui doit parler particulièrement à un poète, c'est l'abandon des mots. Dans le poème que j'ai lu, on a vidé la parole, hein. Vous avez l'impression que la parole est vidée, qu'on a abandonné la langue ?
Je pense que c'est difficile de trouver sa parole, justement, dans une langue qui est de plus en plus marchandisée, de plus en plus éclatée, de plus en plus commercialisée. Enfin, ça, je pense que ça fait beaucoup de tort. Enfin, ouais. Beaucoup de tort à la langue. Et donc aussi qu'on n'aide pas trop les jeunes à trouver leur parole.
Ouais.
On essaye de... Il y a une uniformisation... Enfin, qui a toujours eu lieu, hein. C'est peut-être pas pire qu'avant, mais quand même. Ouais. Il y a une uniformisation que je trouve difficile.
Oui, une perte du lexique, peut-être ?
Aussi, un peu, oui.
Un peu, oui.
Oui, ben, quand on connaît l'état de l'école...
Oui, on est moins étonné, peut-être.
On est moins étonné, oui. Oui.
Ouais. Alors, il y a un silence qui s'impose, alors lui, d'un tout autre ordre. Vous parlez quelque part d'en vivre. Paradoxe, de la mort à faune. Alors, la mort ne parle pas, effectivement. Et elle fait que nous sommes abandonnés par celui qui décède. Nous abandonnons ceux qui vont décéder. Il y a moyen de lutter contre cet abandon et ce silence quand il prend ces proportions-là ?
Je pense que c'est le tragique de la vie. Hein. Je pense qu'on a beau le tourner dans tous les sens... Il y a un moment où il y a une solitude radicale et que peut-être avoir des paroles avec celui qui part, essayer de garder un lien, c'est peut-être la seule chose qu'on peut faire.
Oui, continuer à parler jusqu'au bout.
Oui, mais ne serait-ce que pas forcément avec des mots, mais enfin, oui. Au moins un contact, quoi.
Oui.
Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est peut-être plus difficile parce qu'il y a une séparation. Donc...
Oui.
Ça, c'est beaucoup.
Vous voulez dire au sens où on ne meurt plus chez soi ?
Voilà, ou... voilà. Rien n'est fait pour ça. Enfin, rien n'est fait. Si, un peu, il y a des efforts, mais ce n'est pas suffisant. Moi, je trouve que ce n'est pas suffisant. Enfin, bon, enfin, moi, c'est l'expérience que j'ai eue dans le départ de mon entourage proche. J'ai trouvé ça très dur. Quoi, très... Oh, solitude terrible.
Oui, oui.
Pour les deux. Enfin,
oui. Vos parents ?
Oui, par exemple.
Par exemple, oui. Oui. Oui, effectivement, on meurt plus chez soi, on administre le plus possible la mort.
Oui, oui.
Mais il y a un texte, alors malheureusement, j'ai pas pu évidemment tous les mettre des marque-pages à tous les textes qui m'ont frappé, parce qu'il y aurait que des marque-pages. Vous parlez justement de cette mort qu'on veut pas voir, dont on veut pas parler, la mort des migrants, par exemple.
Dans la Meurthe, c'est quand même énorme.
Ouais.
Moi, je trouve ça énorme. Évidemment que les solutions ne sont pas faciles à trouver. Il ne s'agit pas de dire « il n'y a qu'à Faucon ». Mais quand même, qu'il y ait tant de personnes, de migrants qui meurent dans la Méditerranée, par exemple, c'est quand même proprement scandaleux.
Ouais.
Alors, que faire ? Ça, c'est autre chose. Mais enfin, justement, les politiques sont là pour proposer des solutions.
Ouais. Vous êtes souvent dans le sud de l'Italie, j'ai l'impression, en
oui.
Sardaigne,
oui.
etc.
Oui.
Est-ce que ça contribue à aviver le sentiment d'abandon dans lequel on laisse les migrants ?
Non, parce qu'en Sardaigne, ils sont moins nombreux qu'en sud de l'Italie.
D'accord. D'accord.
Je dirais même que ça contribue plutôt à me redonner espoir sur la solidarité entre les gens... intra-générationnel, enfin, ça c'est plutôt gay, enfin, moi c'est comme ça que je le perçois.
Oui, oui. Alors justement, face à l'abandon, vous parliez de tenter de surmonter l'abandon, et effectivement, j'ai trouvé un poème qui va à contre-courant de cette espèce d'énergie négative de l'abandon. Il pourrait presque s'intituler « Exister ». Je l'extrais toujours du recueil « Vivre ». Et ça célèbre l'existence, et donc ça célèbre la présence, je dirais, des choses. L'arbre existe.
Oui.
Le ciel, la mer existent. Les arbres de la mer. Tous les poèmes inscrits sur le ciel et le soleil, la danse du soleil à travers les persiennes, l'herbe offerte au mouvement du vent, le soir sur la colline, leur alliance existe, odeur de thym mêlée de menthe, l'été, les embrasures de l'été, le goût du sel sur ta peau après le bain, l'allégresse du corps qui existe, tes mains, tes hanches. Ton regard, quand tu viens vers moi, existe, souviens-t'en. C'est un manifeste de la vie, ça?
Ah, ben je pense, bien sûr. Moi, je pense que... faut pas oublier que le sous-titre de Vivre, c'est de l'irréversible battement du cœur.
Ah. Je ne l'ai même pas remarqué. Ah, si. Je suis désolée.
De l'irréversible battement du cœur, c'est-à-dire qu'il y a... Il y a bien sûr de l'irréversible, c'est bien le tragique de la vie, mais en même temps, c'est peut-être ce qui en fait son prix. Mmh. Et puis, ce battement du cœur, je pense que... j'écris autrement, à un moment donné, je dis « Seul l'amour nous permet de vivre ». Et c'est vrai que n'oublions jamais ça. Enfin, c'est fondamental pour moi. Le sentiment amoureux ou l'amour, quelles que soient ses formes, c'est fondamental. Et c'est ça qui nous tient debout.
Alors, j'ai pas, dans mon petit abécédaire, j'ai pas réussi pour la lettre A, j'ai pas réussi à me décider finalement. Donc il y a déjà abandon, et ben on va prendre aussi ambivalence. J'ai trouvé que vous travailliez beaucoup autour de l'ambivalence des choses. Qu'est-ce que j'avais préparé de ce point de vue-là?
On pourrait dire si c'était pas trop usé en même temps, mais...
Oui, oui.
On va l'éviter.
On va éviter, oui. Alors, c'est « Quand chavire soudain la cadence des souffles, on souffre, pardon, on s'ouvre, lapsus révélateur,
oui,
on s'ouvre, on est, on part au large, vers l'amour et son ambivalence, proximité, distance. L'autre te donne ce qu'il n'a pas. Tu frôles l'insaisissable, avance vers tu ne sais quoi. Tu oses, tu es vivante. » Alors, cette ambiguïté, c'est ça, c'est cette ambivalence, c'est l'union des contraires?
Absolument, je crois que... Bah, je crois que justement, aimer, c'est ça. Enfin, c'est aimer la différence.
Ouais.
C'est aimer ce qui nous échappe. Voilà.
Ouais. Et là aussi, on peut surmonter, donc, d'une certaine manière.
Bah, il faut le vivre. Et je crois qu'en le vivant, c'est quand même ce qu'il y a de génial dans la vie, quoi, moi, je trouve.
Oui, oui, c'est ça. La réduction des contraires,
c'est... Ben, c'est pas forcément une réduction, parce qu'on est à la fois proche et loin, enfin. Et je pense qu'on a envie d'être... Enfin, c'est toujours pareil, c'est le manque qui attise le désir, ça, on le sait, enfin... Et voilà, donc on a envie d'être proche, mais en même temps on sait que on comblera jamais cette liberté, et tant mieux,
mieux. Oui, c'est là que s'insère la liberté d'une certaine manière.
Bien sûr.
À l'intérieur. Oui, je crois qu'on va rencontrer ça encore plus loin dans vos textes, dans votre poésie. Il y a une ambivalence qui, à mon sens, revient beaucoup. C'est l'ambivalence et ce que vous appelez d'ailleurs littéralement l'ambiguïté du temps. Qu'est-ce que le temps a d'ambigu?
Ben, il est ambigu parce que il est à la fois, enfin, il y a à la fois quelque chose de, bien sûr, pour nous, d'irréversible, et en même temps, ce que je disais tout à l'heure, c'est à la fois ce qui fait le prix de la vie, c'est ça. Et en même temps, enfin, l'éphémère, c'est quand même ce qui fait le tragique de la vie.
Ouais.
Voilà. Ça, c'est fondamentalement une ambivalence. Il y a ambivalence aussi dans le fait que le présent est toujours mêlé au passé et au futur. D'ailleurs, il n'y a pas comme ça des frontières étanches. Le présent, c'est aussi... on vit avec notre passé, évidemment. Enfin, et en même temps, c'est en acceptant et en vivant avec notre passé qu'on peut s'ouvrir sur l'avenir. Enfin, le temps est toujours... maintenant, quand? On ne sait pas.
Oui.
Qu'est-ce que c'est maintenant?
Oui, qu'est-ce que c'est maintenant?
Ouais.
C'est quelque chose qui finalement, sort d'un passé dont on se souvient plus ou moins, dont il y a plus ou moins des traces. Et puis qui va disparaître en même temps qu'il est apparu, quoi, le présent.
Oui, c'est bon, ça a été magnifiquement dit par Proust, mais
oui,
voilà, ou par Jankélévitch.
Oui, aussi. Oui, donc effectivement, alors on fera peut-être un petit peu de philosophie, mais cette ambiguïté là de la présence du présent et du passé. Je l'ai vu apparaître en particulier donc dans Vivre à deux reprises. Et alors il y a un court poème qui va nous rappeler encore la Sardaigne, le sud. Face à la mer, le bonheur qu'on éprouve en contemplant les ruines dans le ciel si bleu de Taros. C'est la vie qui triomphe dans ce passé présent, la permanence du lien qui ouvre le futur. Quand vous êtes à Taros et que vous regardez les ruines de Taros, vous voyez la présence du passé ?
Bien sûr, comme quand on va en Grèce, enfin bon, je pense que, on s'aperçoit d'ailleurs que les régimes les plus totalitaires sont ceux qui ont voulu détruire les traces du passé. Et je pense que garder les traces du passé, c'est se permettre d'aller vers l'avenir. Enfin, c'est assumer quand même d'où on vient. Si on ne sait pas d'où on vient, c'est difficile d'être, quoi.
Ouais. Quand vous regardez, je ne connais pas la Sardaigne, je ne connais pas Taros. J'ai été voir des photos, et puis j'ai un petit peu fait d'archéologie, etc. Est-ce que ça vous arrive aussi d'avoir pratiquement l'illusion que les gens qui ont bâti ces choses maintenant en ruine sont encore vivants là au milieu ?
Non. Non, je sens beaucoup l'absence.
Oui.
Je sens beaucoup l'absence. La marque, bien sûr, la marque, les traces, mais l'absence.
D'accord.
Bah oui, c'est quand même... Non.
Vous êtes lucide, quoi, autrement dit.
Bah, hélas. C'est pas un choix. C'est pas un choix, mais...
Non, je dis ça, mais ça m'intéresse parce qu'il y a... nous sommes différents, si vous voulez. Et moi, je me suis parfois laissé bercer par l'illusion
c'est
que...
C'est bien.
Je sais pas, du coup.
Bah, c'est bien pour vous, quoi.
Ouais, c'est ça. Je me suis souvent laissé bercer par l'illusion que c'était encore là.
Par contre, par exemple, quand on va... Moi, je vais souvent voir Notre-Dame, parce que, maman, c'est un monument que j'adore, enfin, qui m'impressionne beaucoup. Et là, on a l'impression qu'on est quand même habité par le passé. Ouais. Là, c'est ouais. pas possible. Voilà, Notre-Dame, quand même, ouais. quoi.
C'est fou, parce que, bon, évidemment, à chaque fois que je vais à Paris, je passe par Notre-Dame à un moment ou à un autre de mon séjour.
Ah ouais.
Évidemment que l'incendie, ça a été...
Ah, la catastrophe.
Bouleversement.
Oui, c'était une petite économie d'un gardien, ça a donné ça.
Ouais.
Voilà.
Oui, c'est ça. Oui.
C'est un exemple intéressant.
Oui, c'est un exemple sur ce qu'on peut attendre de nos politiques.
Absolument.
Oui. Non, c'était effectivement...
Énorme.
Énorme.
Ah, les gens étaient... On était bouleversés. Hein. Tout le monde était dehors à pleurer en regardant Notre-Dame brûler. Enfin, c'était...
Ouais. Ouais. Et c'est amusant parce qu'on a, on a un jalon, par exemple, Notre-Dame de Paris de Victor Hugo. On a l'impression qu'à Victor Hugo, il est arrivé la même chose qu'à nous, c'est-à-dire qu'il a senti la chose habitée.
Oui. Bah, il a tellement bien décrit, en plus.
Ouais.
Oh, quand on le lit, c'est extraordinaire.
Ouais, ça fait... Il y a un autre poème... Alors qui a beaucoup plu aux gens qui étaient là à la librairie quand vous êtes venu présenter votre œuvre, vous allez le reconnaître, je suppose, mais j'aime bien le lire. Les objets du passé changent notre regard. Leur permanence nous protège. Ce vieux fauteuil que tu gardes, on ne se débarrasse pas des témoins ni des ruines. Tu l'as vu là. Dans la maison, depuis toujours, il veille. Il est pour toi le familier qui dure, malgré l'usure, malgré sa couleur fanée, ses bras fatigués d'avoir tant accueilli. Le remplacer, le faire disparaître, serait céder à l'apparence, reconnaître ta peur, être infidèle. Bien au-delà de son délabrement, il impose une autre réalité. Sans le savoir, tu le conserves pour l'éclat de la durée qu'il te donne. Une ouverture vers demain. Le familier rassure et nous continue. Le vieux fauteuil est encore là. Il transcende les effacements, veille sur l'avenir, comme s'il pouvait éloigner la mort. C'est où? Il a beaucoup plu aux gens qui sont venus à lire ou vous entendre lire votre œuvre. Vous expliquez la raison pour laquelle on est aussi ému et attaché.
Bah, je crois que si on écrit absolument ce qu'on ressent, déjà, ça ouvre... ouvre au collectif, ça ouvre au lecteur. Enfin, je veux dire, l'important, c'est de chercher une parole vraie, authentique, juste, qui mêle en poésie, qui mêle à la fois l'affect et le concept. Enfin, bon,
oui.
C'est ça. Je crois que c'est la force de la poésie.
Oui.
Et c'est pour ça aussi qu'elle peut parler au lecteur. Parce qu'elle lui permet aussi d'être un sujet.
C'est ça. Oui.
De trouver lui aussi sa parole. Lui aussi, il a pu éprouver ça. Voilà.
Oui. Vous nous donnez la parole, finalement.
Voilà. Mais je crois que c'est fait pour ça. Enfin, c'est
là,
aussi
là,
fait
vous m'éclairez, vous m'éclairez bien, là.
Je crois que c'est pour ça, d'ailleurs, que certains poèmes nous parlent et d'autres moins. Parce que peut-être, ça ne veut pas dire que ce n'est pas bon. Ça veut dire que ça ne correspond pas à notre parole à nous. Mais souvent, quand on lit des textes, des beaux textes ou des textes justes, on peut aussi penser et sentir soi-même, quoi. Oui. Ça me paraît important. Oui.
Et c'est effectivement ce que vous dites dans le texte que je viens de lire, sur le vieux fauteuil, on va dire que c'est le vieux fauteuil.
Oui.
Il y a le mot transcendant. Bon, c'est quand même pas. C'est un concept philosophique utilisé par Kant, etc.
Oui, oui.
Et curieusement, je pense que. Bon, il se trouve que j'ai une formation philosophique, mais je crois qu'il passe pour beaucoup de gens. Dans ce contexte.
C'est intéressant ce que vous dites, parce que j'ai un peu hésité, parce que moi je travaille beaucoup les mots, je barre, je gomme. Bon. Et en même temps, j'ai pensé que là, c'était limpide.
Oui.
Et je pense que c'est ça qui est important en poésie. C'est pas forcément de choisir des mots très très simples, mais il faut qu'ils soient denses, quoi. Et si c'est limpide, on peut les garder, quoi.
Ouais. Bah là aussi, vous m'éclairez. C'est-à-dire qu'effectivement, il a une limpidité liée à la justesse du contexte.
Voilà.
Il s'impose, donc...
Voilà.
Ouais. Et même si on n'a pas une en tête une définition très rigoureuse du mot qu'on
trouve... Ah non, non.
Non. C'est pas la peine de... Il tombe juste, il a bon, quoi. D'une certaine manière. Oui, oui. Alors, je continue mon abécédaire.
Oui.
Alors, B, il passe son tour, hein, parce qu'il y a eu deux A. Alors, du coup, B, au début, j'avais sélectionné braise. Mais j'avais peur que le mot apparaît, l'appareil dans son écrin, dans un de vos poèmes. Le feu apparaît aussi assez régulièrement, la flamme. Mais j'avais peur que ça tourne au recueil de la poésie du feu, à la Bachelard.
Ah oui, oui, oui.
À la psychanalyse du feu. Mmh. Donc je suis passé à C comme chanson. Mmh. Alors on a eu déjà l'occasion d'en parler, mais vos poèmes, donc de vivre ou bien encore de comme une promesse abandonnée, sont d'une certaine manière truffés de paroles de chansons. Alors, les feuilles mortes ramassées à la pelle, avec le temps va, tout s'en va, l'été indien, qui nous emporte où tu voudras, quand tu voudras. J'en ai quelques-uns, hein. On a rêvé d'un autre monde, ce téléphone. On a soif d'idéal, Souchon. Jouer du piano debout, France Gall. Signature au bas d'un parchemin, c'est la non-demande en mariage de Brassens. Et alors, j'ai même. Alors là, il va falloir. Je vais avant de continuer ma question, je vais pêcher de l'info. Écoutez la chanson de Manu écrite pour Maradona. C'est quoi ça?
Je me disais que c'est peut-être un peu léger, mais.
Un
jour, je regarde les informations à la télé et je vois Manu Chao qui chante devant Maradona La vida es una tombola. Et je dis, mais c'est ahurissant. Et tous les gens applaudissaient. Ouais, la vida es una tombola. Je me dis, c'est quand même fou. Et ça m'a frappé, ça m'a plu. Enfin, je ne sais pas comment dire. Je me dis que une espèce de. comment, pour eux c'était une évidence quoi. Ben la vie c'est comme ça, c'est le hasard, c'est la tombe-là. Mais c'était pas, enfin je sais pas, c'était pas que léger, c'était gay. Voilà, la vie d'un tombe-là.
Mais c'est la vie de Maradona, c'est un peu ça.
Oui, et je me suis dit, bah tiens, bah, je vais en faire un poème de ça. Voilà.
D'accord, ok. Alors, pourquoi vous laissez ressortir des mots de chansons comme ça?
Bah, d'abord parce que la chanson m'accompagne. Moi, la musique, pour moi, c'est fondamental. Et puis c'est très collectif. Enfin, c'est le lien aux autres, quoi. Ça, c'est le lien aux autres, et c'est le lien aussi avec l'enfance. Enfin, cette espèce de continuité, quoi. Les feuilles mortes, c'est sûr que c'est pas aujourd'hui, mais voilà.
Mais il y a même le temps des cerises, le merle moqueur.
Ah ben absolument.
Ouais. Colchic dans les prés aussi.
Ben voilà.
Ouais. Oui, donc oui. On est marqué, quoi.
Et c'est tout ça, on est marqué, et puis tout ça se mélange dans la tête, et ça illustre bien ce qu'on disait, c'est-à-dire que le temps, entre hier, aujourd'hui et demain, tout ça se mélange, quoi.
Alors, au-delà de la chanson, effectivement, la musique, important.
Oui, oui, oui.
Sans musique, la vie serait une erreur, comme dit l'autre.
Un peu, oui. Moi, je trouve. Je trouve que pour moi, c'est le summum, la musique.
Mais vous pouvez me dire pourquoi, vous qui écrivez quand même... Bien. Vous avez besoin quand même besoin de musique.
Ah oui, non mais moi je trouve que ça n'a rien à voir. Moi j'écris, mais si je pouvais jouer du piano comme j'écris, je serais ravie. Ah là là, ma fille joue du piano bien, ça j'en suis ravie. Mais pour moi c'est... Ben voilà, ça me transporte quoi.
C'est au-delà.
Ouais, ouais, ah oui, oui, oui. Ben oui, c'est indicible.
Oui, justement. Ah oui, justement. Alors... Vous m'avez rafraîchi la mémoire, je lisais un autre de vos textes, alors c'est un très... J'ai pas trop le temps de le présenter, mais c'est Méridiane, collection duo, deux poètes qui se répondent. Hein.
Oui.
Voilà. Donc, avec Daniel Fournier, ce pourrait être l'été, vous avez écrit, vous, de votre côté, « Ainsi cela devient ». Et à la fin de... c'est magnifique. L'édition est... C'est vraiment une très, très bonne idée. Et à la fin de... Ainsi cela devient, vous avez écrit ce que tu cherchais alors dans la répétition, en écoutant la musique d'Einstein on the beach, un peu d'illimité pour donner sens. Alors, Einstein on the beach, c'est un opéra de Philip Glass, ça dure 3, 4, 5 heures selon les amateurs. Là, il y a un lien parole-musique. Et répétition. La répétition, pourquoi? Et est-ce que c'est ce qui contribue à donner du sens?
Je pense que... Moi, j'aime beaucoup la répétition. Dans la vie, déjà. j'aime pas l'éternel nouveau. J'aime bien la répétition. Ça me rassure.
C'est rassurant.
Bien sûr. Et la musique répétitive, moi, ça me parle beaucoup. Je trouve ça... Et Phil Glass, pour moi, c'est... Un des summums, quoi.
De ça, oui.
Ouais.
Je l'écoutais ce matin, effectivement.
C'est beau. Et puis, dans la répétition, quand on écoute bien, le changement apparaît petit à petit. Hein.
Ouais, ouais.
Ça, c'est formidable, quoi. Ouais. C'est-à-dire que c'est pas l'éternel retour. En tous les cas, c'est pas l'éternel retour du même.
Du même, voilà.
C'est l'éternel retour, mais pas du même, justement. Et les petites différences s'accumulent petit à petit pour faire, au bout d'un moment, une différence. Et ça, c'est extraordinaire. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on part de là et on s'aperçoit que c'est plus tout à fait la même symphonie. Ça, c'est fort, quoi, je trouve.
Oui, on va être obligé de finir là-dessus, mais je trouve que c'est bien de finir sur cette idée-là et puis que vous exprimez très bien à un moment donné. Vous dites, comme on attend... Le retour du thème dans la musique de jazz.
Oui, c'est ça.
Eh bien, c'est comme ça qu'on va attendre votre retour.
Merci. Merci.
Merci Mireille Fargé-Caruso. C'était pour Vivre que nous vous avons reçu ici à Fréquence 7. À bientôt. Au revoir.
Au revoir.
Tout est dit. L'onde curieuse s'achemine doucement vers sa fin. Il me reste à présenter les programmes avec un nouveau programme pour ce soir. Donc évidemment, vous retrouvez d'abord à 15h le Telex, c'est vous qui causez dans le micro et qui annoncez vos événements. À 17h, c'est la rediff de l'Onde Curieuse. Et à 20h, nouveau rendez-vous qui s'appelle la playlist de mon pote. Tu veux nous en dire un mot, Quentin ?
Eh bien, écoutez, c'est Valou, notre nouvelle animatrice star, avec sa voix toute calme, qui rencontre tous les 15 jours un ou une amie et qui lui pose quelques questions sur la musique qu'il ou elle aime, et elle nous restitue ça. Donc ça fait des playlists assez éclectiques, assez riches, avec des petites pépites au milieu.
Super, donc ça, ce sera à partir de 20h. Et eh bien nous, on se retrouve pour une prochaine Onde Curieuse lundi. D'ici là, on se voit demain pour un cinémascope et bien sûr les infos, les actus locales dès midi. À demain.